Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Est-ce que c'est...
Bonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Alors qu'on vote ce soir dans le New Hampshire, aux États-Unis, à quelques mois d'une primaire de la droite et du centre en France, alors que la gauche se déchire sur l'opportunité d'une primaire dans son camp pour désigner le candidat de 2017, une question shakespearienne dans l'émission de ce soir, primaire or not primaire, puisqu'on parlera aussi des États-Unis. Ce mode de désignation a déjà une longue histoire outre-Atlantique. Les primaires existent depuis 65 ans. En France, en revanche, le phénomène est bien plus récent. C'est en 2011 que le Parti Socialiste décide d'organiser une primaire ouverte pour désigner le bon candidat. L'événement est alors un succès populaire, médiatique, démocratique. Il permet la désignation de François Hollande, puis son élection. 4 ans plus tard, la notion de primaire ne fait plus l'unanimité. On lui reproche, entre autres, de personnaliser la vie politique, d'allonger les temps de campagne, de changer peut-être la nature des partis. Alors, primaires sont-elles bonnes pour la démocratie? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Anne Dessine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, dont vous revenez, on va en parler dans un instant. Et puis, vous êtes l'auteur de différents ouvrages, dont La Cour suprême des États-Unis, qui est paru aux éditions Dalloz. Marc-Olivier Padis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des études du think tank Terra Nova, et vous êtes par ailleurs l'ancien directeur de la rédaction de la revue Esprit. Alors, Anne Dessine, je voudrais qu'on parle tout de suite des États-Unis, dont vous rentrez. Vous êtes rentrée il y a quelques jours, caucus de l'Iowa il y a une semaine, primaire dans le New Hampshire aujourd'hui. Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui aux États-Unis de la pertinence des primaires? Est-ce que ça fait partie du débat public?
Alors en fait, on est arrivé à cette situation parce que pendant longtemps, les partis politiques choisissaient les candidats dans ce qu'on appelait les arrière-salles enfumées. Donc c'était les caciques du parti qui désignaient quelqu'un et c'était assez peu démocratique. Donc au début du siècle dernier, il y a eu un mouvement dans les deux partis, un petit peu en parallèle, pour dire qu'il fallait rendre ce processus plus démocratique. Alors certains États ont opté pour un caucus et la majorité pour aller primaire. Alors les caucus, on l'a bien vu la semaine dernière, en fait, ce sont des citoyens qui se rendent dans des salles et qui discutent entre eux, surtout du côté démocrate. C'est d'ailleurs pas nécessairement très démocratique parce qu'il faut se mettre dans un groupe en disant « je soutiens tel candidat ». Et parfois, quand on a son voisin ou son patron dans la salle, on n'a pas très très envie. Du côté républicain, c'est un caucus aussi dans l'Iowa, mais qui ressemble plus à une primaire puisqu'en fait on vote. Donc ça, c'est le caucus. Il y a peu d'États qui ont des caucus. Dans la plupart des États, c'est une primaire, donc c'est simplement une première élection. Et il y en a pour tous les postes. Bon, en France, on a tendance à se polariser sur l'élection présidentielle, mais il faut savoir qu'il y en a pour les postes de sénateurs au niveau fédéral, au niveau des États, les représentants, les gouverneurs.
Oui, c'est rentré dans la vie politique,
voilà,
en général.
C'est vraiment une
Donc
étape
c'est
très importante.
Incontesté, la primaire aujourd'hui aux États-Unis, c'est un incontournable.
Ah oui, ça c'est complètement incontournable. Ce qui est critiqué, surtout dans le cas des présidentielles, mais aussi des élus, ce sont des effets secondaires et en particulier le rôle de l'argent dans la sélection de ces primaires. Parce que une primaire, c'est bien parce que ça donne du pouvoir ou ça rend du pouvoir à l'électeur qui ne se contente pas de choisir entre deux personnes, mais qui peut agir en amont. Et là, pour certaines élections, s'il y a trop d'argent ou s'il y a un certain nombre de processus, l'un étant la radicalisation, on se dit que la primaire perd de son intérêt.
Alors, on va venir à tous ces effets secondaires qui font partie des critiques adressées aux primaires. Marc-Olivier Padis, alors vous êtes le représentant ce soir du think tank Terra Nova, que nos auditeurs connaissent peut-être, qui a été très actif intellectuellement dans la mise en place des primaires à gauche en 2011. Est-ce que les États-Unis et ces primaires institutionnalisées depuis les années 50, c'était un peu le modèle dont vous vous êtes inspiré pour lancer ça en France?
Ce n'était pas le seul modèle. Quand on a travaillé, on a fait des comparaisons avec les États-Unis, mais aussi l'Italie, qui venait de mener un processus de primaire. Et en réalité, à l'époque du rapport de 2011, qu'on avait préconisé, c'était plutôt des primaires à l'italienne, c'est-à-dire des primaires qui permettaient de désigner le chef du parti et le chef de l'opposition en cas de défaite électorale. Donc en réalité, si on reprend vraiment, c'était assez loin. Mais il y a cette question, cette attraction de l'élection présidentielle en France qui est tellement fort que, bien sûr, sûr, on avait aussi comparé avec le cas américain, mais en réalité, le point de départ, pourquoi est-ce qu'il a fallu des primaires en France ? Et la comparaison entre la droite et la gauche est vraiment très instructive sur ce point, parce que c'est le même point de départ. Il faut des primaires aujourd'hui à droite, comme il en a fallu auparavant à gauche, parce qu'il y a eu dans chacun des partis, le Parti Socialiste et puis Républicain et UMP, il y a eu un conflit interne,
irrésolu. Un problème de leadership ?
Un problème de leadership qui n'a pas pu être résolu par l'élection des militants de ce parti, avec une élection contestée, où la personne qui avait perdu l'élection contestait. On se souvient du conflit Martine Aubry-Ségolène Royal, ouais, et du conflit Jean-François Copé et puis François Fillon pour la droite. Et donc, c'est une situation où on ne sait pas comment trancher des rivalités entre les responsables politiques, et où l'appel aux militants internes des partis, on pressent que ça ne va pas régler le problème, parce que pour le leadership des partis, il y avait contestation, transparence, est-ce que les résultats étaient manipulés, pas manipulés. Et là, finalement, tout le monde se rallie à l'idée de dire il faut un processus ouvert, très très large, avec une très large participation, parce que ça empêche ces petites manips de partis.
Alors précisément sur cette notion de leadership, est-ce qu'aux États-Unis, les primaires permettent d'asseoir un leadership ?
Je dirais qu'elles ont plutôt comme premier avantage de faire émerger des personnalités, des personnes qu'on ne connaît pas beaucoup. Prenons le cas d'Obama. Obama, il était inconnu 2 ans avant 2008. Il a fait un discours très remarqué à la Convention démocrate et il a commencé à venir un petit peu en surface. Mais c'est grâce aux primaires, grâce à sa campagne, grâce au fait...
À une égalité de parole qui est donnée.
Voilà. Alors l'égalité de parole, ça n'existe pas aux États-Unis. Nos petites choses très très bien de l'élection présidentielle, le temps de parole, ça n'existe pas.
Garantit une exposition minimum, disons.
Oui, si on a suffisamment d'argent. Alors l'idée, c'est que... Alors, ce qui est intéressant dans la présidentielle, c'est le calendrier. Donc là, on a vu Iowa la semaine dernière, là, le New Hampshire. Ensuite, on aura le Nevada, la Caroline du Sud. Ensuite, un Super Tuesday, c'est-à-dire plusieurs
États en même temps.
Voilà. Et le parti est responsable de ceci. C'est-à-dire, il établit un calendrier. Et dans les règles, tant démocrates que républicaines, si un État trouve qu'il est mal placé en mai, qu'il ne joue pas un rôle suffisamment important dans le processus, et qu'il décide d'avancer sa date de primaire en violation de ce que lui demande le parti, il y a des sanctions, il y a des pénalités, et il n'aura que la moitié des délégués. Donc, on a ce système, et l'idée, c'est que le candidat doit émerger. Alors, maintenant qu'on sait, quelqu'un qui va être bien placé dans le New Hampshire.
C'est important que ce soit dans le New Hampshire, certains soient dans les 4 premiers, parce que ça leur permet de rester un petit peu dans la course.
Dans l'Iowa, on savait que si Marco Rubio faisait un bon score, ça le propulserait en tête. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer de façon féroce par Christie, qui est un ancien procureur, donc qui a les armes du juriste, de l'avocat, qui l'a littéralement massacré pendant le débat en disant « Mon petit, t'es trop jeune, t'as pas l'étoffe pour être président. » Tandis que moi, qui suis un ancien procureur, qui ai eu les séquelles du 11 septembre, qui ai eu l'ouragan, etc., je peux le faire. Et là, c'est la même chose, New Hampshire. Là, on a les outsiders, Trump et Cruz. Et puis, on a l'establishment. Ils sont 4 sur le créneau. 3 gouverneurs, 2 actuels, un ancien, Bush. Quelqu'un dont on parle peu en France, John Kasich, et le fameux Chris Christie, plus Rubio. Et donc, c'est celui des 4 qui va réussir à arriver derrière Trump et Cruz qui va être propulsé. Et quand on regarde les sondages, on voit Kasich, qui jusqu'ici était à 8, et dans certains sondages, à 17%, et donc en troisième position.
Marc-Olivier Padis, est-ce que le revers de la médaille, de l'avantage du primaire qui donne un leadership, c'est pas aussi une certaine personnalisation de l'élection, quitte du coup à ne pas vraiment se concentrer sur un programme de parti ?
Moi, je ne pense pas tout à fait, parce que les institutions de la Ve République, elles sont ce qu'elles sont, elles personnalisent de toute façon. Et donc, je ne pense pas que les primaires aient contribué à personnaliser davantage. Alors, il y a toujours un grand désir, même aujourd'hui, parmi les gens qui plaident pour une primaire, que les idées devraient primer sur les hommes. On devrait d'abord discuter du fond, et puis ensuite choisir un candidat. Mais c'est essayer de faire jouer la procédure contre elle-même ou à contresens, parce que nécessairement une primaire, elle est quand même faite pour gagner une élection, et l'élection, elle est structurée par nos institutions de la cinquième. Alors après, on peut discuter comment remettre plus de parlementarisme, comment redonner plus de rôle aux partis politiques au sein de l'Assemblée nationale, etc. Mais c'est un autre sujet. Des primaires, elles peuvent pas tout faire. Elles sont là pour trancher un conflit de leadership, de légitimité, pour trouver un candidat, pour gagner une élection. Et donc, une primaire se coule nécessairement dans la forme imposée par l'élection.
Alors, pour poser peut-être différemment ma question, est-ce que les primaires, ça ne revient pas à exacerber des différences au sein d'un même parti, alors que l'idée, c'est aussi de dégager un programme unique, un programme d'un parti ?
C'est sûr que ça, c'est une des difficultés des primaires. Là, c'est commun, je pense, à la France et aux États-Unis. C'est que on invite des candidats à s'affronter, à confronter leurs projets. Et puis, ensuite, il faut se réconcilier. Et puis, tout le monde doit se retrouver derrière le candidat qui aura été choisi. Et donc, il faut trouver une modalité du conflit qui, en même temps, soit suffisamment respectueux pour qu'on puisse recoller les morceaux en bout de processus. Mais si vous regardez, en tout cas, l'expérience qu'on a la dernière, qui est la primaire de la gauche, dans le fond, c'est un candidat sans doute le plus modéré des candidats socialistes qui s'était manifesté, François Hollande, qui a gagné. Aujourd'hui, d'après les enquêtes qui valent ce qu'elles valent, mais enfin, pour la primaire de droite, c'est à nouveau le personnage le plus modéré, c'est-à-dire Alain Juppé, qui semble le mieux placé. Donc, on n'est pas du tout dans la configuration américaine. Où il y a une sorte de prime à l'extrémisme, là, oui. Au contraire, on va plutôt vers de la modération.
Oui, c'est alors, extrêmement intéressant.
Je voudrais donner un exemple, en fait. Il me semble que lors de la dernière présidentielle aux États-Unis, il y avait ce duel, en fait, au sein du Parti démocrate, entre Barack Obama et Hillary Clinton. Ça avait été presque sanglant. Est-ce qu'on n'a pas été pas loin de ce risque de faire, pas exploser un parti, mais exacerber des différences? Comment ils s'en sont sortis pour recoller les morceaux?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la radicalisation et le mode de scrutin. Alors, l'une des choses qu'on reproche vraiment au système des primaires actuellement aux États-Unis, et c'est vrai pour la présidentielle, mais c'est vrai pour tous les postes dont je parlais tout à l'heure, c'est que cela amène à faire campagne vers les extrêmes. C'est-à-dire que le Parti démocrate a tendance à privilégier ceux qui sont un peu extrémistes, alors qu'on va appeler liberal, radical, progressiste, etc. Et les républicains, c'est là surtout qu'est le problème, sont obligés de faire la course à droite, à l'extrême droite.
Trump, c'est le produit de la primaire en ce sens-là?
Oui, alors Trump, c'est encore pire parce que c'est un produit de la télé-réalité, c'est un produit de l'outrance, c'est quelqu'un qui a su capter la colère des électeurs et qui, grâce à son statut de millionnaire et grâce à son langage outrancier, que certains peuvent qualifier de bagou, s'en sort. Il dit des horreurs contre les femmes, contre les handicapés, etc. Et il s'en sort. Donc ça, on peut le laisser à part. Mais Cruz, c'est un petit peu ça. Et donc, les candidats qui ont occupé un poste de responsabilité, parce qu'aux États-Unis, selon qu'on est sénateur ou gouverneur, on est plutôt bien placé, parce qu'un gouverneur, c'est quand même quelqu'un qui a occupé un poste exécutif et donc qui peut dire « j'ai fait des choses ». Mais quand on est gouverneur, par définition, on travaille avec l'autre côté, on fait ce qu'on appelle du bipartisan. Et donc, les trois gouverneurs se font exclure, ils sont très très bas dans les sondages parce qu'ils ne sont pas suffisamment à droite. Tandis que quand
pas
on
assez
est
assez radicaux.
Voilà. Et alors Rubio, qui est quand même extrêmement à droite, se fait critiquer parce que dans un moment, il avait quand même accepté de participer à l'effort bipartisan pour réformer la loi sur l'immigration. Et c'est ce que lui reproche Cruz. Donc voilà, radicalisation. L'autre chose, c'est le mode de scrutin. Quand on parle du combat terrible qui a eu lieu effectivement entre Obama et Hillary Clinton, c'est parce que à chaque étape, donc, et cela dure pendant plusieurs mois, dans chaque état, l'attribution des postes de grands délégués, de délégués, de grands électeurs, se fait à la représentation proportionnelle. Donc, par exemple, dans l'Iowa, comme ils étaient très très proches, je crois de mémoire que l'un a obtenu 22, Hillary, et l'autre 20. Et donc, ça va continuer au fil. Et ça peut durer très très longtemps.
Donc, pour faire la différence, voilà. il faut aller de plus en plus loin. Je suis désolée, le temps passe. Je voudrais passer à un autre thème. On dit aussi, je l'ai dit dans l'introduction, que les primaires, c'est rallonger les campagnes et c'est entrer dans un état de campagne permanent. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique, Marc-Olivier Padis?
C'est vrai, pour les États-Unis, je pense. Mais pour la France, je suis pas sûr. D'autant plus que dans la configuration où nous sommes, nous avons un président sortant et enfin un président sortant qui est susceptible de se représenter. Et dans ce cas-là, lui a tendance à se présenter très tard. Donc évidemment, la primaire de la droite aura lieu à l'automne prochain. Donc ça fait peut-être un peu tôt, d'autant plus qu'on est déjà plongé en fait dans cette ambiance. Donc c'est vrai que ça c'est un peu une critique, mais je dirais en un sens ça découle aussi d'abord du fait que l'élection présidentielle étant notre élection majeure, c'est quand même elle qui entraîne, qui contraint l'ensemble de la vie politique, et donc à chaque fois on se précipite très très tôt vers cette échéance.
Oui, qu'il y ait des primaires ou non en France, malheureusement, à partir du moment où il y a mandat renouvelable, dès qu'on a dépassé les 2 ans et demi, en l'occurrence, on est presque en pré-campagne. Aux États-Unis, ce qui fait durer les choses, c'est que d'abord, les campagnes sont beaucoup moins organisées qu'en France. Il n'y a pas de temps. Elles sont aux mains des intérêts privés. Il n'y a pas de financement public. Il y en a eu brièvement, mais finalement, les candidats ne s'en servent plus. Et par conséquent, cela peut durer très, et ça dure longtemps, parce que depuis une décision de la Cour suprême, les millionnaires peuvent donner des sommes considérables. Là, 132 personnes ont donné 60% des sommes qui sont dépensées par les super PAC. Donc c'est des 0,00.
Alors Anne Dessine, vous parlez justement d'argent. Je voudrais qu'on en vienne à cette question. Est-ce que des primaires ouvertes ne changent pas aussi la nature, la mission des partis aux États-Unis? Les partis ne sont-ils pas devenus des écuries financières plutôt que des boîtes à idées?
Non, parce que malheureusement, cet argent ne n'est pas donné aux partis. C'est-à-dire que l'argent va soit aux candidats, soit il est dépensé en parallèle par les super PAC. Et donc, tout ce qui se passe actuellement... Alors, c'est paradoxal parce que Romney a son argent et Sanders réussit à collecter des petites contributions. Mais ce qui est très très grave, c'est que l'argent ne va plus vers le parti, qui est quand même, qui a un rôle théoriquement imparti dans la vie politique d'articulation des idées. Les sommes sont versées en parallèle pour soutenir un candidat, même quand il n'est plus viable, ou pour le torpiller.
Et c'est surtout... presque la fin des partis.
C'est une critique. Oui. Alors, en ce qui concerne le financement, en France, c'est très peu cher. Parce que c'est le service public de la télévision, radio, qui avait organisé la série de débats. Et puis ensuite, le Parti Socialiste avait couvert ses frais uniquement en demandant aux gens qui venaient participer à la primaire de verser 2 euros. Et ces 2 euros avaient suffi, et c'est ce que fera la droite aussi, ils demanderont 2 euros, 5 euros, je ne sais pas, mais en tout cas, ça suffit largement à couvrir les frais. Alors ensuite, est-ce que ça change la nature des partis politiques? Ça, certainement.
Parce que les militants ne sont pas un peu démotivés?
En fait, ils ont été très motivés.
La première fois.
Voilà. Non, mais parce qu'ils ont été fiers de réussir quelque chose qui marque un changement de culture politique qui démocratisait, comme vous l'avez dit dans votre introduction, quand même le choix du président. Et ça a marché, donc ils étaient fiers de participer à quelque chose qui marchait. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu un pouvoir qui est le pouvoir de désigner leur candidat, mais ils y ont aussi gagné quelque chose qui est gagné la possibilité d'animer un débat public plus large et dans ce sens de retrouver, de remettre les partis avec une image quand même plus moderne, plus dynamique, qui apportaient quelque chose au lieu de rester sur leurs prérogatives. Et donc, je pense qu'au total, les partis y ont gagné, malgré tout.
Et alors, pour terminer, il nous reste 30 secondes. Est-ce que la vertu des primaires en France, ça ne va pas être aussi de ramener des électeurs, par exemple les fameux abstentionnistes, vers l'élection, puisqu'on leur donne l'occasion de se prononcer une fois de plus?
Oui, ce serait, dans le meilleur des cas, ce serait effectivement que...
Moi, je crois.
Vous pensez que ça peut marcher? Je crois vraiment
que nos primaires sont très différentes des primaires américaines, et qu'elles vont peut-être redonner un petit peu de vie au débat démocratique qui en avait bien besoin.
Et bien alors, on va conclure sur cette note d'optimisme. Pour une fois, ça nous fera du bien. Merci beaucoup à vous deux, Anne Dessine, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, Marc-Olivier Epadis, nouveau directeur des études du think tank Terra Nova, ancien directeur de la rédaction de la revue Esprit. Merci à Florence Ponce, à Hélène Avril pour la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve demain pour un débat sur les méfaits de la baisse du prix du baril de pétrole. En attendant, dans quelques instants, c'est le journal En France est facile.